Donc bonsoir et bravo pour les courageux donc, qui avaient affronté les déluges. Mais comme ça fait un mois qu'il pleut, on a un peu l'habitude. Donc c'est vrai que... Ah, il y a des embouteillages aussi parce que les taxis font grève. Et puis en plus, troisième raison de courage, c'est que la lettre de Paul aux Romains, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile dans la Bible. Mais ça fait sans doute partie des textes les plus intéressants en fait quand même. Parce qu'il y a énormément de théologiens dont la lecture, le commentaire de Romains a vraiment été décisif en fait dans leur parcours. Parce que, bon, on ne sait pas très bien effectivement le rapport de Paul aux Romains, si ce n'est qu'il semblerait quand il écrit cette lettre, il ne connaît pas encore cette église. Mais c'est une des premières sommes théologiques, c'est-à-dire qu'il cherche à déployer quand même une théologie construite dans quand même une longue épître, la plus longue. Et du coup, ça fait un texte, vraiment un des premiers textes de théologie chrétienne les plus élaborés, en fait. Alors, c'est sans doute écrit avant les évangiles même, hein, ces lettres de Paul aux Romains. Et bon, c'est clair que le Christ n'était pas chrétien, il n'a pas fait de somme théologique du tout. Il a renouvelé la foi, la relation à Dieu, la façon d'être au monde. Il a ouvert à un salut nouveau, mais il n'a pas fait de somme théologique. Donc c'est un des grands textes. Alors, bien entendu, si ce n'est pas toujours facile, quand on la lit, on peut très bien passer sur un passage, ce n'est pas si grave. Mais là, on a l'occasion donc, de lire en détail ce passage, qui est peut-être un peu moins profondément théologique que le début, la première partie de la lettre de Paul aux Romains, qui est beaucoup plus théologique. Là, c'est quand même encore assez pastoral, effectivement. C'est quand même assez... c'est-à-dire que ça ressemble plus quand même à une prédication pour le croyant et une exhortation. Et donc, c'est pas inintéressant parce que finalement, c'est assez proche de nous et assez proche peut-être de nos préoccupations de chrétiens, de la vie de tous les jours.
Oui, juste peut-être pour resituer quand même dans le thème de l'année, parce que il n'est pas anodin d'avoir comme toile de fond cette quête du bonheur, hein, qui est un peu ce qu'on a voulu donner comme horizon, comme paysage, comme toile de fond à tous ces grands textes. Alors bien sûr, c'est toujours un peu un prétexte pour traverser, pour retraverser à nouveau frais les Écritures. Mais c'est important de ne pas trop lâcher ce thème, parce que je crois que c'est un peu peut-être ce qui nous pousse ici à venir essayer une fois de plus de comprendre un peu la logique de ces Écritures, qui sont à bien des égards un peu, sinon anachroniques, en tout cas très, très, très exotiques pour beaucoup de nos contemporains. J'imagine que le langage est assez compliqué. Or, c'est important de voir que Paul... est un grand témoin de la joie et de la quête du bonheur. Et effectivement, si on fait Paul ce soir, c'est pas parce qu'on est un peu à mi-route et que finalement en février il faut passer par Paul, parce que après avoir vu les prophètes, après avoir vu l'attente d'Israël, après une petite bifurcation par la crèche à Noël et par le chant des anges, voilà, maintenant il faut s'atteler avant le carême quand même à une pensée un peu roborative, un peu substantielle, un peu indigeste aussi par moment. Alors je crois que c'est parce que Paul est un témoin aussi de la joie. Il dit toujours hein, qu'il se bat pour l'évangile, pour le vrai évangile. Il le dit dans l'Épître aux Galates, il a toujours peur des ce qu'il appelle les faux frères, ceux qui pourraient dénaturer l'évangile, dénaturer la bonne nouvelle. Pour soit la rejudaïser, soit pour la paganiser, soit pour en faire une espèce de gnose, c'est-à-dire un savoir intimidant, mais qui finalement rate le moment de l'incarnation. Et donc il est obsédé par ça, ne pas séparer l'incarnation divine en Jésus-Christ de cette bonne nouvelle. L'idée que c'est quand même quelque chose qui est un motif de joie, et qu'on doit accueillir dans la joie. Ce n'est pas évident quand on pense à la vie de Paul. Hein. Il a fait naufrage je ne sais combien de fois. Quand il fait ses voyages missionnaires, il faut imaginer ce que c'est. Hein. Il ne les fait même pas à cheval, d'ailleurs. On l'imagine souvent à cheval. Pour monter à cheval, fallait monter à cru à l'époque, les routes n'étaient d'ailleurs pas très bonnes. Il est sûrement piètre cavalier, hein. C'est un artisan qui a eu une bonne éducation rhétorique, mais peut-être pas très sportive. Il risque sa vie je ne sais combien de fois. Il dort dans des cours d'auberge à même le sol ou sur des lits infestés de vermine, comme à l'époque. Il faut imaginer ce qu'est cette vie missionnaire. Il se prend 5 fois les coups de bâton rituels parce qu'il met un peu le désordre dans le monde de la synagogue, puisqu'il veut aller quand même prêcher à la synagogue. Il n'est pas suffisamment prestigieux pour louer des espaces publics. Il faut imaginer ce petit rabbin artisan qui arrive à Éphèse. Éphèse, on voit encore des ruines prestigieuses à Éphèse. C'est le monde gréco-romain dans toute sa splendeur. Un monde très intimidant, un monde qui a la stabilité du marbre. Et lui, il arrive tout dépenaillé, jargonnant une espèce de grec improbable et demandant à parler dans des espaces publics qui lui sont fermés. Il arrive dans les synagogues. 5 fois, il a reçu les 39 coups de bâton rituels qu'administraient les Juifs à ceux qui semaient un peu le trouble. Alors, parler de joie et de bonheur terrestre, de bonheur humain, c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut y croire. Et pourtant, il le dit, hein, réjouissez-vous, soyez dans la joie, etc. Le royaume de Dieu est justice, paix, joie. Etc. Voilà. Donc, je crois qu'il faut bien avoir en tête que si l'on fait appel à Paul ce soir, dans un monde où parler de joie et de bonheur sans naïveté, sans égoïsme est quand même difficile. Hein. On sait de quoi est faite la vie des hommes. Donc, pouvoir se tourner vers un témoin dont l'authenticité humaine ne peut pas être mise en doute, c'est ça qui est important. C'est ça aussi l'incarnation de l'Évangile. C'est qu'on s'adresse à des vrais gens dont on se dit qu'ils ont peut-être un peu plus que d'autres à nous apporter parce que leur vie a été un témoignage charnel de cet amour de Dieu qu'ils ont reçu et qu'ils brûlent de transmettre à d'autres. Donc voilà, je pense que c'est important, avant d'affronter ces grands massifs littéraires, de se dire que Paul, c'est un homme comme nous qui cherchait le bonheur et qui l'a cherché sur des voies assez audacieuses.
Oui, merci. Donc peut-être qu'on peut commencer à lire, en tout cas, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on lirait... On lit déjà tout ce passage de Romains ?
Oui.
Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire cette page ? Ah, merci, ah, non, Claude,
c'est
oui.
Cessons donc de nous juger les uns les autres. Juger plutôt qu'il ne faut paraître pour un frère cause de chute ou de scandale. Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture tu attristes ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Garde-toi pour une question de nourriture de faire périr celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne puisse être discrédité, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'identification mutuelle.
L'édification. Oui.
Pour une question de nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Tout est pur, certes, mais il est mal de manger quelque chose qu'on ait ainsi cause de chute. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, rien qui puisse faire tomber ton frère. Garde pour toi, devant Dieu, la conviction que la foi te donne. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en exerçant son discernement. Mais celui qui mange, alors qu'il a des doutes, est condamné, parce que son comportement ne procède pas d'une conviction de foi. Or, tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Mais c'est un devoir pour nous, les forts, de porter l'infirmité des faibles et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier. Le Christ, en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportées par les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que l'un d'un même cœur et d'une même voix, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue l'autre page. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je l'affirme en effet, c'est au nom de la fidélité de Dieu que Christ s'est fait serviteur des circoncis pour accomplir les promesses faites au Père. Quant aux païens, ils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations païennes et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, nation, louez toute le Seigneur et que tous les peuples l'acclament. Esaïe dit encore, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui, les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint.
Merci beaucoup. Alors le début, moi je trouve que c'est quand même très très fort, je trouve. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Déjà, il parle au pluriel en disant, bon, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement une leçon qu'il donne, c'est dire, voilà, on peut pas s'empêcher. Eh bien, il dit, voilà, si on arrêtait, finalement, d'avoir ce genre d'attitude, et un peu comme quand il y a un cessez-le-feu, on dit, bon, à 14h22, il y a un cessez-le-feu, donc tout le monde fait un peu la paix ensemble en même temps. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne idée, finalement. Cessons de nous juger les uns les autres. Et plutôt, ce qu'il conseille, finalement, c'est plutôt de se juger soi-même, finalement. De se juger soi-même, et encore pas de se juger soi-même pour s'évaluer, si vous voulez. Mais c'est juger soi-même afin que, on fasse pas de mal aux autres. Alors là, ça peut sembler négatif, finalement, seulement ne pas faire de mal aux autres. Ça fait un peu petit joueur, parce que ça ressemble... Vous savez qu'il y a la règle, ce qu'on appelle la règle d'or. On la trouve dans pratiquement toutes les civilisations. C'est « ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Et Jésus, dans l'Évangile, il la transforme, ce qui est plus rare, en fait, dans les civilisations diverses, « fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Donc ça devient positif, en fait. Donc là, on se dirait, on retombe dans la règle d'or minimale. Bon, c'est déjà un très grand progrès, parce que si vous voulez beaucoup, déjà se juger les autres, ou même se juger soi-même, c'est essayer de mettre une note pour évaluer quelqu'un. Là, il dit, c'est pas l'enjeu, si vous voulez, de s'évaluer, de savoir combien on vaut. D'abord, parce que de toute façon, en Dieu, chacun de nous a une valeur infinie, donc la question n'est pas là. Mais la question, c'est plutôt d'essayer de se juger, mais pas au sens de l'évaluation ou de la sélection de telle ou telle personne, mais au sens d'essayer de se purifier, de passer au crible, finalement, voyez, de garder le meilleur de ce que nous sommes, de ce que nous sommes nous-mêmes, afin de ne pas faire du tort aux autres. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que le jugement, bon, effectivement, on pense à ce qui est mauvais, par exemple. Mais c'est pour ça, je crois, que là, c'est négatif. Parce que dans la suite, on va voir, c'est beaucoup plus positif. Il s'agit d'être source de bien pour les autres. Mais là, si c'est négatif, c'est parce que le jugement, on se dit, voilà, on juge ce qui est mauvais et c'est ça qu'on va relever. Il dit, voilà, il faut relever peut-être le mal qui est en nous, mais ce n'est pas un mal, voyez, moral. Ce n'est pas des fautes qui donnent des mauvaises notes. C'est un mal qui fait du mal, en fait. Donc, en fait, c'est une question très pragmatique. On n'est pas jugé, si vous voulez, d'abord, on n'est pas jugé, évalué, ni par Dieu, ni par personne. Ce n'est pas la question. Mais la question, c'est que, bah, je veux dire que des fois, quand on fait n'importe quoi, bah, on fait du mal, on fait de la souffrance dans le monde, et ça, c'est quand même une catastrophe. Donc il propose ce jugement-là, finalement, assez pragmatique, et ça, je trouve que c'est un bon critère, finalement, parce que on est peut-être voilà, les mieux placés pour essayer de voir ça comme ça. Je trouve intéressant. Alors, ne pas faire du mal à l'autre, finalement, c'est pas être une cause de chute ou de scandale, je dirais, c'est ne pas être un obstacle pour l'autre, c'est-à-dire l'empêcher d'avancer ou même qu'il se casse la figure. Mais le premier, c'est voilà, ne pas poser d'obstacle, finalement. Donc, c'est le minimum, en fait, quand même, minimum. Ne pas être quelque chose, voilà, parce que nous sommes, par nos actes, empêcher l'autre de progresser, d'avancer, et au contraire, éventuellement, le faire chuter. Et donc ça, ensuite, quand il dit « je suis convaincu, en fait, rien n'est impur en soi, ou rien n'a peu d'importance, finalement », on retrouve quelque chose qui est assez fort, quand même, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, quand il dit « en fait, tout est permis, tout vous est permis ». Mais tout n'est pas utile, tout ne construit pas, et donc ça, c'est quand même une parole très forte, hein, je trouve, et qu'on retrouve ici, finalement. Il n'y a rien a priori d'impur, d'interdit, de mauvais en soi, quoi. Alors, ensuite, on va voir quels critères il donne. Déjà, on a un indice, quand même, dans le premier verset qu'on a là, donc Romains 14, 13. Déjà, quand il y a quelque chose qui empêche l'autre d'avancer ou qui le fait chuter, ça, c'est sûrement mauvais, en tout cas. C'est objectif. Ensuite, là, c'est une deuxième raison qu'il va invoquer. Si une chose est impure pour toi, finalement, eh bien, il faut la considérer comme impure. C'est-à-dire, il ne faut pas tordre, il faut avoir cette sincérité, finalement. Il faut, le fond de la question, c'est de ne pas aller contre sa propre conviction, de ne pas avoir une conscience tordue, voilà, peut-être, de se dire voilà, si on se dit bon, ça c'est impur mais je vais le faire quand même, ça il y a un problème quand même, parce que du coup on est tordu et finalement il y a quelque chose là où peut-être on est le premier à s'empêcher d'avancer et à être source de scandale pour soi-même, c'est-à-dire pour être source de chute, source d'abaissement, hein, parce que voilà, ça tord notre conscience entre notre conscience et nos actes, entre nos consciences et nos choix, ben ça, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ces deux premiers points, je sais pas.
Oui, je pense que effectivement, pour bien comprendre, il faut voir que ça résonne sur des questions très concrètes, hein. Saint Paul parle à des Juifs de la communauté de Rome, et la situation à ce moment-là, c'est que, en gros, pour faire rapide, les gens simples était tenté de judaïser, c'est-à-dire c'est normal, c'est la piété populaire qui fonctionne à la fidélité, donc ils font ce qu'ils ont toujours connu. Et ils viennent d'une religion où le pur et l'impur sont clairement séparés. Et donc la tentation, ben, c'est de mettre peut-être son espoir en Jésus-Christ, mais en tout cas de continuer, puisque les rites liturgiques ne sont pas encore mis en place, donc... L'être humain est religieux, il a besoin de rites pour sa vie quotidienne, et donc on se raccroche aux rites juifs que l'on connaît. Et on continue donc à pratiquer la cacheroute, etc. Et saint Paul, c'est vrai, est sévère avec ça. Il est sévère dans l'Épître aux Galates, et il est sévère dans l'Épître aux Romains. Mais en même temps, il se rend bien compte qu'il ne peut pas exiger de tout le monde d'aller à son rythme. C'est toujours la même chose, il y a toujours une avant-garde qui est délestée d'un certain nombre d'héritages, parce qu'on ne peut pas tout garder, il faut être un peu de temps en temps capable de faire le tri, de faire l'inventaire. Et puis il y a les gens plus simples, qu'il appelle les faibles ici. Il dit « nous les forts c'est ceux qui sont convaincus par cette nouvelle voie qu'ils prêchent ». À savoir qu'on vit sous le régime de l'esprit, on n'est plus sous le régime de la loi, on n'est plus sous les 613 mitzvot de la loi, on n'est plus sous les observances rituelles, etc., les prescriptions. Donc d'une certaine manière, Saint Paul et ses compagnons sont conscients qu'ils introduisent une rupture dans l'histoire religieuse qui est inouïe. Il le dit d'ailleurs, hein, tout est pur. Il n'y a plus de pur et d'impur. Or, le pur et l'impur, vous savez que c'est quand même c'est incessamment renaissant. J'entendais mes élèves tout à l'heure qui écoutaient du hip-hop. Et alors, c'était un rappeur contemporain, je ne vous dirai pas son nom, mais il dit à un moment, alors de façon très machiste, je vous épargne, il dit « on sait quand une femme est halal ou pas ». Bon, alors très bien, mais enfin, c'est quand même effrayant d'une certaine manière de pouvoir, comme ça, dans la culture populaire, encore véhiculer des... Alors, il ne s'agit pas de juger la culture en question, bien sûr que non. Il faut l'aider à faire ce travail qui est un travail spirituel, qui n'est pas uniquement pour les bons catholiques ou les bons protestants, qui n'est pas uniquement pour le petit sérail, qui est un travail pour toute l'humanité, d'arriver à se libérer de ça. Parce que, probablement, la nature religieuse de l'homme, spontanément, est assez encline à séparer ce qui est sacré, ce qui est profane, ce qui est pur, ce qui est impur. C'est bien de distinguer les choses, mais il ne faut jamais séparer. Ce que nous apprend le Concile de Chalcédoine, hein. Il faut distinguer sans séparer, unir sans confondre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le confusionnisme, il ne faut pas non plus être dans la séparation. On n'a pas séparé en Jésus sa partie divine et sa partie humaine. Jésus n'est pas à moitié homme, à moitié Dieu. Il est complètement homme, complètement Dieu. Et donc, ici, il s'agit d'entrer dans cette même logique, que tout est pur. Et en disant ça, saint Paul n'invente rien. Il ne fait que théologiser quelque chose que Jésus avait dit. Ce qui est impur, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Ce qui est impur, c'est pas de pas faire les ablutions avant le repas, ou, parce qu'on lui reprochait, vous savez, les juifs pieux, qui étaient des gens très bien, hein, les juifs pieux, les dévots, lui reprochaient d'en prendre et d'en laisser avec les rites de pureté, de purification rituelle, etc. Et il dit, ce qui est impur, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, c'est l'égoïsme, c'est les tendances... effectivement, de convoitise mal orientée, c'est la débauche, c'est voilà. Régulièrement, saint Paul fait la même chose. Il fait des listes de choses qui sont effectivement moralement impures. Mais il n'y a plus rien dans le créé qui soit clairement pur ou impur. Et c'est impressionnant de voir la densité de ce texte, c'est-à-dire qu'il sait que ça va pas être simple. Parce qu'il est à contre-courant de la tendance générale, de la tendance religieuse humaine, même nous, hein, on fait ça sans cesse, et en même temps, il dit, il faut le faire. Alors du coup, on voit à la fois le théologien et le pédagogue, c'est ça qui est étonnant, il y a une tension qui habite le texte. Il dit, tout est pur, certes, mais il est mal de manger quelque chose lorsqu'on est ainsi cause de chute, c'est-à-dire qu'on va, la chute, c'est scandalon, hein. C'est le petit caillou qui fait trébucher. Donc, il ne faut pas être scandalon, c'est-à-dire il ne faut pas scandaliser exprès les pauvres gens qui, eux, ont peut-être besoin de plus de temps, ce qu'il appelle les faibles. Donc, d'un côté, il dit tout est pur. Hein, il n'y a plus rien d'impur, il le dit, rien n'est impur en soi. Mais, en même temps, il y a le temps propre aux gens et donc il ne faut pas... vouloir prendre les gens à rebrousse-poil, etc. Je crois que c'est d'une grande santé théologique et pastorale. C'est ce qu'on passe notre temps à faire, d'une certaine manière. On accompagne les gens là où ils en sont et on ne cherche pas à les faire, comment dire, chuter. Mais en même temps, progressivement, on sait que certains faibles peuvent devenir forts. Parce que là aussi, il y a une pédagogie. On commence avec des aliments, comme il dit, hein, de lait. Et puis, progressivement, il y a une croissance et une maturation spirituelle qui fait qu'on peut dire des choses. Alors, c'est ça le discernement pastoral. C'est savoir quand on peut commencer à voir le faible comme un fort. Alors là, c'est compliqué. Parce que si on ne veut pas séparer les choses, on ne peut pas dire il y a les faibles d'un côté... qui sont bons pour la piété populaire, pour les dévotions superstitieuses. Et puis de l'autre, il y a l'avant-garde, non pas du prolétariat, mais l'avant-garde religieuse qui, elle, peut voir se dévoiler à nu le mystère de Dieu, etc. Évidemment, ça ne marche pas comme ça non plus, parce que, voilà, on serait vite tenté de se croire du bon côté. Voilà, donc le discernement pastoral, et là, Paul en est un modèle, c'est de voir jusqu'où on peut conduire une personne, et puis aussi d'évangéliser ses pratiques. Parce qu'il y a des pratiques populaires qui peuvent être tout à fait chrétiennes, qui ne sont pas forcément impures ou superstitieuses. Alors, il y a une manière de dire le chapelet qui est chrétienne, quand même.
Mais sans doute, hein. Sans doute. C'est, finalement, là, on voit bien que tout est un peu dans l'intention, qu'en fait. L'intention, voilà. Et puis le rapport à l'autre. Donc, c'est vrai que, voilà, tout est permis.
Celui qui la considère comme tel. Ouais.
Tout est permis. Mais je crois qu'il faut, voilà, au-delà, de toute façon, de ce problème très conjoncturel, de savoir... Comment vivre, bon, alors c'était la question effectivement des Juifs, il n'était pas contre que les Juifs continuent à pratiquer la cacheroute et les règlements. Paul n'avait rien contre. Le problème, c'était que il y avait quand même l'idée de l'accueil de païens et de savoir si on faisait semblant ou pas semblant. Et quand il critique l'apôtre Pierre, très vertement en fait, et que d'ailleurs ça pose des problèmes parce que Pierre craint le chef de l'église qui est Jacques, frère du Seigneur. Donc Pierre va ce que tu dis dans l'épître aux Galates, il va dissimuler, c'est-à-dire qu'il va jouer en fait à quelqu'un qui pratique le judaïsme, etc., pour être respecté par le chef de l'église de Jérusalem, qui était à la limite à l'époque un peu le chef de l'église du monde, voilà, parce que c'était clair, c'était Jacques, frère du Seigneur, qui était chef de l'église de Jérusalem. Pierre l'a été quelque temps au moment de la Pentecôte, et puis assez rapidement, en fait, il est détrôné, si je puis dire, pour une raison plus ou moins inconnue, et il devient évangéliste, finalement. Il devient annonceur, il part en mission, annoncer l'évangile, fonder des églises. Et il y a les émissaires de Jacques qui arrivent dans une ville où il y a Pierre et Paul, voilà. Et puis Pierre, tout d'un coup, alors qu'avant il accueillait les païens, on le voit cette expérience dans les Actes des Apôtres, où il a la même démarche que Paul ici, disant « bon, c'est pas si grave de respecter la cacheroute ou pas, de manger ceci, de pas manger cela, ça n'a pas tellement d'importance ». Donc il pratiquait ça dans la rencontre avec les païens, devenant chrétien. Tout d'un coup, il y a les envoyés de Jacques, chef de l'église de Jérusalem, qui arrivent, et tout d'un coup Pierre se retransforme en fabuleux juif observant les règles juives, et Paul dit mais c'est de l'hypocrisie, c'est là que tu tords finalement ta conscience, ta façon d'être pour du faire paraître pour les autres, et ça c'est un vrai problème finalement. Mais on retrouve la même critique ici finalement. Il dit voilà, si vous considérez que vous devez suivre les lois juives, ben suivez-les, mais pas pour faire semblant. Si vous considérez que vous ne voulez pas les suivre, ben ne les suivez pas, mais pas pour s'en fiche finalement. Et savoir comment se réagir là-dessus, les autres problèmes. Donc ça, c'était le problème entre juifs et pas juifs. Mais il y avait aussi le problème, si on va, on le voit dans la lettre aux Galates aussi, mais c'est le problème, ou la lettre aux Corinthiens, quand je disais tout est permis, mais tout n'est pas utile. La question, c'était savoir, est-ce qu'on peut, par exemple, si on est invité chez des amis qui sont des païens, manger des viandes sacrifiées aux idoles? Comment est-ce que ça va être pris par l'autre en face? Est-ce qu'il ne va pas se dire que... nous aussi, on est ravis de sacrifier aux idoles et qu'on va honorer les idoles. Donc là encore, il va poser la question de se dire, bon, mon acte, pour moi, ça n'a aucune importance de manger une viande sacrifiée aux idoles, parce que de la viande est de la viande et qu'il faut se nourrir. Donc il n'y a aucun problème en soi. Sauf que comment ça va être interprété par l'autre? Est-ce que ça va porter l'autre à une mauvaise interprétation qui va le faire pousser dans une mauvaise pente? Et vis-à-vis de Pierre, c'est ça qui est critique aussi. Il dit, voilà, ton attitude, basée sur la manière dont les autres vont juger, etc., plutôt que de penser à ce qui est droit par rapport à ta conscience et ce qui va permettre aux autres d'avancer. Donc, il ne faut pas se laisser juger non plus par les autres. Voilà, se baser là-dessus, mais il faut se dire, voilà, comment est-ce que ça va faire déplacer l'autre? Mais ça, je trouve que c'est formidablement intéressant. Si vous voyez pas dans... Parce que nous, on n'est pas dans cette conjoncture-là. Mais quand même, se dire, voilà, comment est-ce que mon acte, d'abord, peut tordre en moi quelque chose d'essentiel dans ma conscience, et puis qu'est-ce que ça va provoquer chez les autres qui sont alentour, pour les faire avancer ou les faire chuter. Ça, je trouve que c'est deux excellentes questions quand même. Et c'est là que c'est intéressant, parce que vous voyez, ce n'est pas simplement des règles morales qui sont données, tu vas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. C'est plutôt un apprentissage. Voilà comment on peut, dans sa vie de tous les jours, apprendre à réfléchir et établir une méthode qui est au-delà du « il faut faire, il ne faut pas faire », mais d'apprentissage, d'exercice qui permet de décider par soi-même, dans un moment donné de son existence, dans une conjoncture particulière, je suis avec telle personne, je ne suis pas avec une autre, et c'est ça qui va régler, à mon avis, voilà, il appelle à ce discernement, finalement. Et on le voit au verset 18, là. Le fond de la question, finalement, hein, c'est « recherchons donc ce qui convient à la paix et l'édification mutuelle ». Donc, finalement, le devoir, c'est de rechercher. C'est de rechercher ce qui convient à la paix. Alors, la paix, c'est le shalom hébreu, si vous ne laissez pas simplement bien s'entendre entre nous. La paix, c'est aussi la poursuite d'un développement, d'une construction, d'une évolution qui mène à une humanité aboutie, en fait. Donc, l'édification, voilà, l'édification mutuelle, c'est ça, c'est on vient à la paix, c'est l'édification de chacun et l'édification mutuelle. Et ça, je trouve que c'est une bonne piste, voilà. C'est une piste c'est une méthode de réflexion, d'élaboration éthique, morale, pour notre vie de tous les jours. Voilà. Alors ça, je trouve c'est intéressant aussi. Il dit, voilà, le verset 17, « Le règne de Dieu n'est pas affaire de boisson ou de nourriture. Il est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé par les hommes. Recherchons donc, machin. » Et le règne de Dieu, là encore, vous voyez, la question, ce n'est pas de savoir si on entre ou si on n'entre pas au paradis. Vous voyez, parce que le royaume de Dieu, on pense tout de suite à un lieu. Voilà, il faut entrer dans le royaume, alors on va essayer de bien faire pour gagner des bons points. On est à mille lieues de cette logique-là. Le règne de Dieu, c'est maintenant, quand on laisse régner Dieu sur son existence, c'est-à-dire où on le laisse opérer en nous, cette édification, cette construction. Et donc, il s'agit de s'associer, finalement, à cette... s'ouvrir et s'associer à cette... action de Dieu, finalement, pour se laisser gouverner par lui. Et ce n'est pas une question de savoir si on mange ou on ne mange pas. Cette ouverture, c'est rechercher ce qui convient à la paix. Voilà. C'est rechercher, c'est avoir cette recherche, cette ouverture. Et ensuite, ça ne se manifeste pas par un ticket d'entrée au paradis ou savoir si on a la moyenne, si on n'a pas la moyenne. Ça se manifeste, voilà, dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose qui se reçoit, finalement, hein, qui se reçoit, et c'est un peu au jour le jour, je crois, c'est de recevoir ces qualités d'être, voilà.
Oui, évidemment, si on a choisi ce texte, c'est effectivement à cause de cette citation. Je reviens un tout petit peu en arrière sur l'affaire qu'on appelle l'incident d'Antioche, effectivement, où Pierre est surpris en train de manger cachère. Et Paul a toujours reproché à Pierre ce double jeu. Il lui dit, au fond, c'est du double jeu, tu manges cachère avec les Juifs, puis avec les autres, tu ne fais pas pour montrer que quand même, tu fais partie des forts, etc. Bon. C'est intéressant parce que le même Paul... dit, alors je suis toujours mauvais pour citer les réformés sont meilleurs, il dit ailleurs, je me suis fait juif avec les juifs, romains avec les romains, grecs.
Mais là c'est pas ça qu'il critique,
oui,
chez Pierre,
bien
c'est
sûr.
Qu'il le fait pour l'évaluation des envoyés de Jacques, c'est même pas pour être juif avec les juifs et
bien
païens
sûr,
et païens,
bien sûr.
C'est tout d'un coup faire le juif parce qu'il pense qu'il va être évalué là-dessus.
Tout
par les autorités.
Absolument. Et la citation de Paul, c'est où, quand il dit
je me suis fait tout à tous,
oui.
Ça, faudrait rechercher.
Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, on voit bien que, évidemment, la faiblesse de Pierre, c'est d'avoir voulu complaire aux émissaires de l'église de Jérusalem, qui était encore judéo-chrétienne, très marquée par ça. Mais Paul lui-même n'est pas insensible en tant que pasteur et en tant que missionnaire à l'idée qu'il faut quand même rejoindre les autres dans leur culture. On ne peut pas parler du Christ à des Juifs en méprisant ce qu'ils sont et en disant bah, « tout ça c'est fini, c'était l'ancienne alliance ». Forcément non, Jésus s'est incarné dans cette culture-là, il est resté comme ça. Et donc Paul lui-même est conscient de ça. Alors, où commence effectivement le double jeu ? Alors bien sûr, l'interprétation traditionnelle, c'est de dire que c'est pour plaire au pouvoir, hein, pour plaire au pape de l'époque, qui était Jacques, le frère de Jésus. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de discernement pour nous, parce qu'on passe notre temps à rencontrer des gens de cultures différentes aussi, et voilà, jusqu'où on est capable de les rencontrer, jusqu'où on est capable de rester nous-mêmes. Juifs avec les Juifs, Grecs avec les Grecs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment, on peut rejoindre l'autre sans aller peut-être jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas, j'imagine que... voilà, je peux partager un repas juif avec des amis juifs orthodoxes au restaurant sans suivre exactement le menu que eux vont adopter, mais si par mon attitude, ma bienveillance, ma conversation, je suis en communion avec eux, je pense qu'ils ne m'en voudront pas. Peut-être que des gens plus raides me reprocheraient de manger des mets qui leur sont interdits devant eux. Et que, bon, après, il y a plein de questions culturelles qui entrent en jeu, parce qu'effectivement, parmi les mets interdits, certains peuvent être l'objet de dégoût, hein, c'est le cas, mais pas toujours. Je ne suis pas sûr qu'un juif new-yorkais ait du dégoût pour la viande de porc ou pour certains aliments non cachers comme les crustacés, etc. Donc après, il y a des questions qui sont liées à la culture de diaspora aussi. Mais tout ça peut paraître anodin, parce qu'on se dit, au fond, il a parlé de ça il y a 2000 ans, il a dit que c'était fini. Je crois que c'est important, on vit dans une culture de pluralisme, et si on ne veut pas aborder cette culture de pluralisme uniquement sur le mode de la compétition et de la concurrence spirituelle, en faisant des soupes de cochons comme font certains, vous savez, groupuscules, pour provoquer, au fond. Là, on n'est pas du tout dans l'esprit de saint Paul. Parce que certes, on peut manger du cochon parce que plus rien n'est impur, mais enfin, de là à aller scandaliser sur les lieux mêmes, à Marseille, etc. Voilà, c'est là que Paul devient intéressant, parce qu'il a une clé. Il dit, très bien, vous pouvez manger du cochon, rien n'est impur. C'est peut-être pas la peine de le faire au nez et à la barbe de ceux qui vont en être blessés, etc. Bon, donc, je pense que, justement, je rencontrais quelqu'un dernièrement, elle ne m'en voudrait pas de partager son témoignage parce qu'elle aimerait que ça serve à d'autres, donc une femme catholique qui pensait être arc-boutée sur un catholicisme traditionnel où, voilà, où on a tout bon, on coche tout. Voilà, et voilà que sa fille, qui fait ses études à Londres, se convertit au judaïsme. Et en général, quand on se convertit, surtout quand on est jeune, c'est pas au judaïsme libéral, c'est au judaïsme plutôt orthodoxe, plutôt... C'est normal, parce qu'on aspire à avoir des règles claires, et puis l'estime que le christianisme, à cause de saint Paul, n'est pas suffisamment clair, parce qu'effectivement, quand on voit ça, on se dit « Ah ben, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, donc elle se convertit au judaïsme orthodoxe. Tout de suite, plein de questions. Cette femme me dit, mais à Noël, c'était terrible, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais elle s'y est mise, non sans un certain plaisir. Et elle a reçu la famille du fiancé, parce qu'en fait, s'il y avait conversion, c'était aussi parce qu'il y avait entré dans une famille juive. Et donc, voilà. Donc, il y a eu dialogue interculturel. J'ai accompagné tout ça, c'était très agréable, mais au début, que de peur. Que d'angoisse, de perdre son identité, de se laisser finalement altérer, voilà. Et tout ça, pour moi, ce sont des questions extrêmement concrètes, actuelles, etc. Voilà. Alors, d'autre part, justement, sur la citation « Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint », C'est magnifique, je crois qu'il faut apprendre la citation par cœur. Parce que justice et paix, on voit. Hein, justice et paix s'embrassent. Les prophètes en parlent
85,
sans cesse.
86.
Psaume 85, 86. Les prophètes parlent aussi hein, de justice et de paix. Si on a une vision réaliste de la vie, on sait très bien que c'est les choses les plus difficiles, que la justice et la paix, précisément, ne sont pas de ce monde, que ce sont toujours des manques. On ne vit la justice et la paix que sous la forme du manque. Et on a beau quelquefois céder à la bigoterie en disant « oui, bien sûr, mais au fond, si les gens... savaient apprécier ce qu'ils ont, etc. Les questions d'injustice ne seraient pas aussi exacerbées, et puis la paix intérieure serait préservée. » Mais de fait, on sait très bien quand même que le monde n'est pas en paix, que nous ne sommes pas en paix, et que la justice n'est pas de ce monde, puisqu'on parle même du mal comme étant le mystère d'iniquité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Qui est dans le réel, il y a un trou dans le réel qui fait que ça ne colle pas, que ça ne marche pas, qu'il y a sans cesse de l'injustice en espérance de vie, en condition de vie, enfin à tous les niveaux. Donc justice et paix et joie, il rajoute joie, c'est très étonnant. Donc on voit bien que la justice et la paix sont à entrevoir de manière dynamique, comme une conquête. Que ce soit la paix intérieure ou la paix extérieure d'ailleurs, hein. Que ce soit la paix naturelle qu'on obtient par des exercices, par des retraites, par les chrétiens ont du mal avec la paix dite naturelle, parce que pour nous la paix c'est quelqu'un, la paix se reçoit de quelqu'un. Pour Paul la paix c'est Jésus-Christ, mais de fait on voit bien autour de nous des gens qui recourent à l'hindouisme, ou au zazen, etc., à toutes sortes de techniques, au yoga, pour être en paix avec soi-même. Bon, alors c'est plus ou moins illusoire, plus ou moins vrai. C'est bien d'être en paix avec soi-même, si c'est pour mieux aimer les autres, c'est formidable. C'est pas une fin en soi non plus. Et donc, il y a toujours cette justice et cette paix qui sont toujours au-delà de nous-mêmes. Et il y a donc cette joie. Donc on voit bien que si la justice et la paix sont toujours dynamiques, sont pas des voilà, c'est pas la justice et la paix des créatures de vitrail qui attendent la vision béatifique. Et même la vision béatifique, d'après saint Thomas d'Aquin, n'est pas seulement une espèce d'extase qui serait vécue de façon passive. Au contraire, il y a une activité, il y a un combat, il y a une dynamique, etc. Donc la joie, ici, aussi, est un dynamisme. Ce n'est pas une joie passive, ce n'est pas une joie... ce n'est pas seulement un état, voilà. Souvent, on imagine la joie comme un état qui nous affecte. Voilà, alors par moment, on est dedans, par moment, non. Par moment, c'est un état qui nous affecte parce qu'on a regardé la bonne chaîne à la télé ou on a eu la conversation... qui nous rendait joyeux, et puis bon, bah, une heure après, on n'est plus dans cet état. Mais pour Saint Paul, c'est pas un état, c'est une activité, c'est quelque chose. Vous savez ce que disent les anges aux bergers? Soyez dans la joie, je vous annonce une grande joie. Annuntio vobis gaudium magnum, c'est ce qu'on dit pour les élections de pape. Je vous annonce une grande joie, un sauveur vous est né. Vous trouverez un enfant dans une crèche, etc. C'est très beau, parce qu'au fond, les bergers, ils étaient là, un peu prostrés, et voilà que l'annonce les fait sortir d'eux-mêmes. Ils étaient dans le monde un peu du sommeil. Il y a une très belle homélie de Benoît XVI sur ça, où il dit « Les bergers sont dans la torpeur, sont un peu engourdis, et puis tout d'un coup, voilà qu'ils sont, ils sont réveillés. Ils doivent sortir de leurs rêves, de leurs rêveries, ils doivent sortir de leur torpeur, de leur sommeil, de leur léthargie, pour, j'allais dire pour mériter cette joie, non, elle ne se mérite pas, mais pour aller au-devant de cette joie, voilà. Et c'est ça le royaume de Dieu. Et sommes-nous capables de ça, de nous laisser comme ça relancer et aller trouver la joie de Dieu là où on ne s'attendait pas du tout, hein. Voilà.
Oui, mais C'est intéressant, c'est qu'effectivement la joie, la paix dont on parle là, c'est pas la paix du zazen du tout. C'est-à-dire, c'est pas la paix du manque de tourment ou de manque d'angoisse ou c'est pas du tout ça. C'est une paix qui est plutôt une bonne santé de l'âme en fait. Ou c'est une quelqu'un qui est en forme. En fait. Donc on peut être en forme et quand même, par exemple, être plein de tristesse avec un ami qui est triste. Donc on n'aura peut-être pas à ce moment-là la paix, parce qu'on va peut-être s'angoisser avec quelqu'un qui est dans des tourments, dans des difficultés, ou de chômage, ou de santé, ou de deuil. Mais donc à la limite, est-ce que c'est vraiment une paix? C'est une paix dans ce sens-là, si il y a cette bonne santé de l'âme, de l'être intérieur. Et à ce moment-là, on peut parler de paix. Donc c'est une paix plutôt, comme tu disais, c'est une activité, c'est plutôt une bonne santé plutôt que de ne pas avoir d'inquiétude. Et c'est pareil, oui, pour la joie. C'est qu'on voit, par exemple, le Christ, il dit, voilà, je vous donne ma joie parfaite, au moment où il va être arrêté, là, au début de Jean 15. Et il n'est pas en train de faire youpi, tralala, puisque, bon, il sait que c'est un moment parfaitement tragique où il quitte ses disciples. Mais à ce moment-là, finalement, c'est un moment vrai, c'est un moment de vérité, de relation vraie avec les autres. Alors, ce que je remarque, c'est que là, c'est pas justice, paix et joie, tout court. C'est dans l'Esprit Saint. Et ça, je trouve, j'y pensais quand tu disais, bah oui, on n'est quand même pas dans un monde de justice, de paix et de joie, toi-même. Mais c'est en fait dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est pas simplement là non plus le sentiment religieux, c'est. Peut-être que la joie est plus le sentiment religieux, parce que dans l'Ancien Testament, les psaumes, c'est la joie d'être avec Dieu, d'être avec, au temple, d'être en relation avec Dieu, d'être dans la proximité de Dieu. Mais là, c'est dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est l'Esprit créateur de Dieu, c'est un souffle de création de Dieu. Le mot Esprit, d'ailleurs, à mon avis, c'est mal traduit. C'est un mot souffle, c'est Dieu qui communique un souffle de vie. Et c'est ça qui lui permet finalement de créer, de poursuivre l'évolution, une dynamique d'évolution. Donc, quand il y a marqué que c'est dans l'esprit, ça veut dire qu'on se laisse créer, on se laisse transformer, on se laisse construire par Dieu. En fait. Donc, on pourrait dire déjà justice, paix et joie dans une espérance qui provient d'une action de Dieu à l'intérieur de nous qui poursuit notre évolution, notre construction. Alors, en chacun de nous, puis dans l'humanité, chaque fois qu'on dit dans l'homme, c'est l'homme individuel et c'est en même temps l'humanité entière qui est corps du Christ. C'est toujours un peu les deux chez Paul, vous voyez. Donc là, c'est dans une dynamique. Dès qu'on met Esprit Saint, il faut s'imaginer une dynamique d'évolution. C'est pas simplement le sentiment religieux, si vous voulez. Il faut s'imaginer cet enfant qui devient adolescent, qui devient adulte. C'est peut-être cette personne âgée qui a pu acquérir avec l'âge, avec la sagesse, avec la foi, avec la réflexion, la prière, avec les chaos de l'existence, a pu acquérir cette profonde qualité d'humanité qui fait que elle aura une bienveillance un peu tout terrain, si vous voulez, une espérance un peu tout terrain. J'ai vu hier une grand-mère qui disait, elle dit que c'est en prenant des antibiotiques, je sais pas, elle a perdu le goût. Or cette grand-mère, c'est une fabuleuse cuisinière. Elle dit, de toute façon, moi maintenant, je sens plus grand-chose. En fait, depuis que j'ai perdu le goût il y a 2 ans, avec des antibiotiques, c'est peut-être avec un virus, c'est peut-être avec je sais pas quoi. Alors moi, je lui dis, bon, ça peut revenir. C'est-à-dire des fois, c'est des choses, ça vient comme ça, ça part comme ça, ça revient comme ça. Elle me dit, vous savez, ça fait déjà 2 ans que j'ai perdu le goût, puis comme j'ai déjà plus de 85 ans, moi je crois que ça reviendra pas. Mais vous savez, bon, avec l'âge, on apprend que la carcasse, le corps, diminue, mais elle disait ça d'une manière souriante, si vous voulez, avec une paix, je dirais, une paix, une joie assez simple. C'est pas du renoncement, c'est pas de la résignation, c'est une profonde sagesse, une profonde sérénité qui est forte, je trouve, voilà, qui est pas mal, qui est touchante.
C'est vrai que cette joie chrétienne. Bon, je fais une parenthèse, mais souvent on nous dit, si les chrétiens avaient l'air plus joyeux, on croirait plus facilement, on entend souvent ça. Même le pape François a dit récemment, devant certains chrétiens, on a l'impression d'un carême sans la résurrection, ou quelque chose comme ça. Alors, bon, je pense qu'il l'a dit plus subtilement, mais de fait, bon, c'était peut-être un propos. Mais bon, Bernanos le disait aussi, il faudrait, voilà, qu'on ait l'air de ressusciter, que la seule souffrance, c'est de ne pas être des saints, et qu'il faudrait irradier en permanence. Alors, moi, je suis toujours mal à l'aise avec ce genre de critique, peut-être parce que je suis quelqu'un peut-être un peu grave, mais... Je pense que la joie chrétienne ne se juge pas seulement à l'aune de l'extériorité. Alors, il y a quelquefois des personnalités un peu miraculeuses, comme ça, où l'équilibre s'est fait et où on sent une sérénité qui n'est pas une sérénité à bon marché. Parce qu'il y a aussi des sérénités qui sont des sérénités égoïstes. Hein. Quand on est un peu en empathie avec le monde tel qu'il est, il y a aussi une inquiétude normale. Qui est augustinienne d'ailleurs. Notre cœur est sans repos, notre cœur est toujours inquiet tant qu'il ne se tourne vers toi, Seigneur, dit saint Augustin. Mais quand savons-nous vraiment que nous sommes orientés vers le Seigneur et que notre vie est en communion avec lui? On n'a pas toujours la batterie de test, hein, parce qu'il y a une part nocturne de la foi. La foi nous fait avancer un peu à tâtons, à l'aveuglette. Mmh. On est aimanté par Dieu parce qu'on est aimé par lui. Mais on n'a pas toujours les bons tests pour savoir qu'on est dans la bonne direction. Même si je crois que, justement, saint Paul le dit d'ailleurs un peu plus loin, il y a quand même des critères. Hein. Tout ce qui est noble, beau, bon, etc., il le dit, je ne sais plus où, c'était peut-être dans Philippiens, voilà, oui, tout ce qui est noble et bon, voilà, ça nous donne quand même un peu la sécurité qu'on est en bonne voie. Et donc, oui, cette joie chrétienne, pour moi, c'est une joie, c'est le pasteur Lita Basset qui dit la joie imprenable, hein, parce que c'est une expression de saint Jean, je crois, hein. Notre joie est imprenable parce qu'elle n'est pas une fausse monnaie, elle n'est pas quelque chose qu'on change comme on change de vêtements, par exemple. Il y a quelque chose dans la joie qui nous façonne, qui nous sculpte intérieurement. J'aime beaucoup cette idée qu'il y a tout un travail esthétique de la vie chrétienne. Nous choisissons notre forme de vie, nous ne voulons pas vivre n'importe comment, et il y a donc une espèce de sculpture intérieure qui n'est pas la sculpture stoïcienne un peu marmoréenne et qui toise le monde et qui a la morgue de la sagesse inaccessible. Mais au contraire, je crois qu'il y a un éthos chrétien qu'on reconnaît, que nos pères savaient reconnaître. Charles Péguy parle beaucoup de ça. Il y a quelque chose, on sent le christianisme, on sent qu'il, voilà, il y a eu un façonnage. Et ça donne une joie qui n'est pas forcément exubérante. Hein. Comme dit souvent un de mes confrères, la joie, ce n'est pas le guili-guili qu'on fait à l'enfant pour qu'il... C'est ce que je reproche quelquefois à certains chants... pentecôtistes, par exemple, qui sont un peu dans la chaufferie, il faut absolument... Ça m'agace, parce que je crois que la joie est trop, j'ai envie de dire, trop sérieuse pour... voilà, mais enfin, il faut savoir aussi, de temps en temps, être décontracté. Saint-Philippe Néri nous l'a appris, il faut avoir de l'humour sur soi, etc. Mais la joie chrétienne, pour moi, c'est pas quelque chose d'aussi simple que quelquefois les gens voudraient qu'on puisse leur proposer.
Oh, mais là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne à ce moment-là une hypocrisie ou une façade. Je crois que non plus, il y a le problème quand la joie vient de l'ambiance du groupe. Et ça, finalement, ce n'est pas une joie, c'est une joie que je trouve artificielle. Parce que là, ce qu'il propose, c'est une joie dans l'esprit. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'ambiance d'un groupe et qu'on se laisse prendre par l'ambiance d'un groupe. Parce qu'en fait, c'est une aliénation à ce moment-là. Alors que là, au contraire, c'est rentrer en soi-même et laisser travailler l'esprit en nous. Donc au contraire, c'est quelque chose, à mon avis, qui vient de l'intérieur et pas du groupe, pas de l'ambiance. Et c'est pour ça, je crois, que Il y a cette recherche qui est proposée, là, par exemple, voilà, au verset 19. Recherchons donc, et finalement, c'est ça le critère, c'est pas tellement le faire, c'est pas tellement une joie qui serait de façade sur notre visage en faisant des... Alors, à propos là, je fais un petit cartoon que j'ai vu, qui est rigolo, on voit, ça marche peut-être moins pour les prêtres, ça pourrait marcher aussi pour deux prêtres, mais le dessin, c'est un pasteur qui rentre chez lui avec un grand sourire sur le visage, et sa femme lui dit, tu peux arrêter de sourire, chérie, on est à la maison. Donc voilà, c'est le pasteur, et il fait à l'église, il va faire un grand sourire pour montrer qu'il est joyeux, qu'il est fraternel. Et puis la deuxième blague, c'est qu'on dit aussi entre pasteurs, hein, c'est l'avantage des obsèques, c'est qu'on peut faire la gueule, ça passe pour de la tristesse. Vous voyez.
Bon, donc, vous voyez, sur le coup du sourire, c'est amusant, parce qu'on pourrait imaginer le contraire, qu'on se donne une attitude compassée. C'est plutôt l'image que nous véhiculons des pasteurs, quelquefois.
C'est parce que peut-être qu'on ne joue pas effectivement ce jeu-là, et que bon... Donc je crois que finalement, le critère, ce n'est pas tellement une joie extérieure, ce n'est pas tellement faire ceci, pas faire cela. Le critère qui dit, c'est rechercher. Voilà, c'est cette recherche en sincérité, avec le cœur, machin, et ensuite... La vérité, elle est là-dedans. La vérité, elle n'est pas dans la conviction ou dans le faire. La vérité, elle est dans une recherche sincère, courageuse, humble. Alors, donc, par l'Esprit Saint, c'est ce qui est dit au verset 17, par le verset 18, c'est ce qui convient. Ça, c'est la visée à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, peut-être viser ce qui fait l'édification de celui qui m'est confié, celui que je croise, mais aussi me laisser édifier par l'autre qui est à côté. Et ça, c'est un grand service qu'on rend à soi-même, mais qu'on rend aussi à l'autre de s'édifier mutuellement. Et on retrouve, je crois, aussi au verset 22, il y a marqué « Garde pour toi devant Dieu la conviction que la foi te donne ». Je crois que ce n'est pas très bien traduit, parce qu'il n'y a pas du tout le mot « conviction » dans le texte grec. Il y a marqué « Ta fidélité, ta foi à toi, finalement, celle que tu as ». Selon toi-même, donc en fait c'est ce que tu t'es forgé en toi-même, dans ta réflexion, dans ta foi, ce que tu t'es forgé comme foi, ben place-le devant Dieu. Et voilà, il y a cette sorte d'intime conviction qu'on place devant Dieu, qu'on laisse façonner par Dieu, et il y a ce travail, je crois, de double sincérité, de sincérité par rapport à soi-même, devant Dieu. Ce double objectif de d'être comme l'Esprit Saint dans un sens, de travailler à l'évolution, travailler à la genèse, notre propre genèse, la genèse du frère à côté, genèse de l'humain, genèse d'un monde plus juste. Bon, voilà, et ça je crois qu'il y a à la fois ce devoir de sincérité, de travail sincère, cette proposition d'objectif, de viser l'édification. Voilà. Et puis le reste, tout est permis finalement. Et ça, je crois qu'il y a là comme une méthode qui est proposée par Paul, avec cette promesse d'une justice croissante, d'une paix croissante, d'une construction de l'humain croissante, et puis d'une joie, d'une vérité d'être avec Dieu, avec l'autre, qui fait que notre être est bien. Et effectivement, je crois que cette joie, c'est, comment dire, un coquelicot, il est heureux quand il a un coquelicot, voilà. Nous, Qu'est-ce qui fait que l'humain fonctionne bien comme ça, qu'il est dans son rôle, qu'il est... Parce qu'on voit, il y a un moteur, hein, je ne sais pas, le moteur d'une moto, quand il est au bon régime, vous voyez, on sent que... Je ne sais pas si ça vous parle. On sent que ça travaille bien, c'est au bon régime, quoi, vous voyez. Ça travaille bien. L'humain, quand est-ce qu'il travaille bien comme ça, dans son fonctionnement nominal? C'est quand il est dans cette recherche, voilà, cette recherche sincère, avec Dieu, pour les autres, ça, et puis les choses avancent, on sent que voilà, il y a là une sorte de justice. À ce moment-là, bon, il peut y avoir des chaos, peut y avoir des turbulences, peut y avoir de la souffrance, de la tristesse, de l'angoisse, mais on sent que ça travaille, quoi, vous voyez, on travaille d'une manière, voilà, au bon régime, en fait. Il y a quelque chose qui... Ça fonctionne. Voyez, ça, je crois que on est fait pour ça. Alors ensuite, bon, tu disais, il y a le passage où les forts et les faibles. Hein, c'est au début du chapitre 15, là. C'est un devoir pour nous qui sommes les forts de porter l'infirmité des faibles et de ne pas chercher ce qui nous plaît seulement, quoi. Parfois, on a un problème avec la force, la puissance. On aurait l'intention de dire, voilà, Il y a deux critiques face à la puissance, partie à la force, par rapport dans le christianisme, peut-être surtout. Il y a l'idée qu'on devrait renoncer à soi-même et laisser Dieu agir, et puis s'anéantir devant Dieu, et puis cette humilité, c'est se lâcher prise, laisser faire Dieu. Ça, je ne sais pas si c'est tellement chrétien que ça. C'est de la fausse humilité, puis dans un certain sens, il y a quelque chose du renoncement. Moi, j'aime bien le bouddhisme, mais il y a ça me gêne, vous voyez, l'idée de, voilà, il faut se vider de son désir, il faut se noyer d'un peu dans l'unité, dans le tout, renoncer un peu au fait d'être un individu personnel. Non, je crois que dans la foi chrétienne, au contraire, il y a quelque chose qui nous dit, vous êtes super, vous êtes digne d'avancer, de faire quelque chose, et donc il y a... C'est pas un faux orgueil, c'est pas de l'orgueil, mais c'est une juste estime de soi qui vient de la foi en disant si on est libéré pour avancer, pour être capable d'avoir des projets, d'inventer du neuf, voilà, c'est ça. Et puis la deuxième critique, peut-être, c'est de dire, de toute façon, et ça c'est plus luthérien, c'est plus protestant, chez protestants, en disant, de toute façon, nous sommes de pauvres pécheurs, le péché a tout sali, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, dit la confession de foi, de confession du péché de Calvin, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, donc on se roule un peu dans l'humilité, de dire, il y a Dieu seul qui peut agir. Non, je ne crois pas que ce soit le projet de l'Évangile, si vous voulez. Il y a l'idée que, non... Dieu nous libère et nous donne des talents, nous donne des dons, nous donne finalement le propre même, la vocation humaine, c'est d'être capable, comme Dieu finalement, d'être un principe, c'est-à-dire source de quelque chose qui est neuf et qui n'avait pas lieu d'être, source d'une créativité unique, personnelle, avec notre talent propre, avec notre projet propre, qui ne vient pas de Dieu. Si, il vient de Dieu parce qu'il nous a donné cette liberté, cette créativité, cette personnalité, et ça vient de Dieu, mais à un deuxième degré. Sinon, quand Jean-Sébastien Bach écrit de la musique de Bach, c'est pas Dieu qui la lui souffle, c'est Dieu qui lui a peut-être donné ce talent, qui lui a donné cette foi, mais Jean-Sébastien Bach écrit du Jean-Sébastien Bach. Donc nous sommes dignes de ça, finalement. Et c'est pour ça, nous sommes forts, mais cette force, elle est pour porter pour l'infirmité, mais l'infirmité, c'est peut-être... C'est un peu désespérant, l'infirmité. L'infirme, il ne va pas guérir demain, il est infirme. Vous voyez, donc, ce n'est pas ça, c'est plutôt la faiblesse du faible. La faiblesse du faible, c'est pour qu'il devienne fort, c'est pour qu'il prenne conscience de sa force. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience, en fait, de notre dignité, de notre valeur.
Voilà, juste une chose, peut-être avant qu'on passe aux Philippiens, parce qu'effectivement, je crois que la seule plénitude qu'il nous soit légitime de convoiter en cette vie, ça n'est pas une plénitude telle que peut-être la font miroiter certaines sectes, ou c'est une édification patiente qui fait qu'on se déleste de certaines choses, on absorbe d'autres choses, et on se construit devant Dieu. Et effectivement, ce qui fait qu'on va être heureux, comme le coquelicot est heureux d'être coquelicot, c'est d'être en vérité avec soi-même, en paix avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. Il y a une espèce de bricolage. Moi, j'aime bien l'idée de bricolage spirituel, au fond, bricolage humain, où chacun, par le milieu dans lequel il a reçu le christianisme, par sa vie, son expérience professionnelle, humaine, paternelle, maternelle, conjugale, pastorale, finalement, chacun arrive à négocier, sa vérité, qui soit une vérité pleinement à lui et compatible avec les autres. C'est ça qui est magnifique. Quand on parle de l'esprit, c'est pas tellement l'esprit qui plane sur les eaux, parce que cet esprit, on peut très vite le dématérialiser et en faire de la métaphysique grecque, si vous voulez. L'esprit nous habite individuellement. individuellement, et il fait de nous des sujets singuliers. Et c'est quand même ça la révélation chrétienne, c'est de découvrir que l'Esprit s'incarne dans chaque personne de manière unique. Alors évidemment, notre raison aime bien trouver des points communs, des analogies, aime bien faire des groupes, des rassemblements. Mais au fond, il y a quand même quelque chose qui résiste à ça, c'est que nous sommes tous en voie d'être des incarnations divines. Il y a quelque chose qui fait que... voilà. Je pense que Saint Paul avait une vision très haute de cette aventure personnelle, mais finalement qui ne peut pas être vécue de manière individualiste. C'est ça. Le meilleur garant de l'individu, de la personne et de la singularité de la personne comme sanctuaire divin, c'est de le vivre en communion avec d'autres. Et moi, c'est vraiment ma conviction personnelle. Quelqu'un qui voudrait préserver sa singularité coupée des autres, c'est la tentation, bien sûr, hein, de vivre dans une société atomisée, du chacun pour soi, etc. Mais en fait, c'est pas là qu'on s'accomplit. Et c'est pas là qu'on est mieux à même de vivre authentiquement et de découvrir sa propre vocation unique, sa propre authenticité, etc. Il faut le vivre, c'est peut-être paradoxal, mais il faut le vivre avec d'autres, comme on le fait ce soir, en essayant ensemble de... Voilà.
Ça, c'est ce qui est marqué vraiment dans le verset 7, là, voilà, dans 15-7, « Accueillez-vous les uns les autres », ou alors l'édification mutuelle, ça, on le retrouve quand même très présent, ce que tu dis dans ce passage, où il y a, voilà, ça pourrait sembler très individualiste, de s'ouvrir à l'Esprit Saint, mais non, tout de suite, on retrouve cette idée... Parce que c'est ce que je disais souvent, voilà, on parle de l'édification de quelqu'un. Sans arrêt chez Paul, l'édification de quelqu'un, c'est aussi l'édification de l'humain comme corps du Christ, c'est-à-dire de l'humanité tout entière. On le retrouve ici, vous voyez, cet accueil, c'est... faut l'accueillir vraiment, ce vrai soi-même, mais c'est en même temps l'accueil de l'autre, c'est être au service de l'autre, mais c'est aussi se laisser servir. Et tout ça, ça construit ce que tu dis. Mm-hmm. Je trouve vraiment, j'entends bien écho dans ce que tu dis dans ce texte, cet appel à construire cette humanité. Et là, il l'ouvre aux païens, ce qui est quand même extrêmement fort, à l'époque, si vous voulez. Alors, on a dit des fois que c'était Paul qui était l'inventeur du christianisme, c'est-à-dire l'inventeur de cette ouverture aux païens. Pas du tout, évidemment non. Il la réalise, mais il ne faut pas prendre Jésus pour un clown, si vous voulez. L'attente messianique dans tout le Premier Testament, c'est cette ouverture à l'humanité tout entière, ne serait-ce que dans la promesse faite à Abraham, où toutes les nations seront bénies par son nom, mais c'est sans arrêt qu'il y a cette... c'est ce qu'il prouve ici, si vous voulez, à travers un certain nombre de versets, de passages, mais de toute façon... D'ailleurs, quand il le montre ici, ça montre bien que c'est entièrement inscrit dans le Premier Testament comme une espérance, comme une promesse, comme un devoir, comme une vocation. Et lui, il l'inscrit à ce moment-là sous le registre de l'espérance. Et ça aussi, je trouve que pour notre temps en particulier, ça peut être intéressant de placer ça sur l'espérance, d'en voir les premiers signes et puis de le voir comme quelque chose qui se déploie et qui nous dépasse largement notre génération. Donc, d'avoir cette petite... cette perspective, voilà, qui est plus large.
Oui, parce que effectivement, le dernier paragraphe peut paraître un peu ésotérique, hein, quand on dit Christ s'est fait serviteur des circoncis et qu'ensuite on parle des nations. Nations, réjouissez-vous. Quand on dit nations, gentes en latin, c'est les gentils, c'est les païens.
C'est les
goïs. Ethnos en grec, qui a donné ethnologie, etc. Et effectivement, ce sont les goïs. Donc, c'est goïm, hein, goïm. Donc, c'est le mot goï est là dans l'esprit de Paul, bien sûr. Les nations païennes, goïm, goï, vous les goïs, réjouissez-vous avec son peuple. Puisque l'objet théologique de la lettre aux Romains, c'est bien de comprendre que le salut en Jésus-Christ est à la fois pour les juifs et pour les goïs, pour les païens, effectivement, pour les nations, pour les gens de culture grecque, comme on disait à l'époque. C'est ça l'objet, hein, de, de cette greffe qui est développée. Une fois qu'on a compris ça, plus la justification par la foi, on peut entrer, c'est un des portails d'entrée dans l'Épître aux Romains, qui est difficile par ailleurs, mais voilà, c'est important de comprendre que les circoncis et les incirconcis sont promis au même salut identique.
Pour nous, c'est vrai que c'est important aussi, dans un monde qui est quand même profondément déchristianisé, et puis cette relation qu'on a avec les autres religions, et bien d'avoir cette ouverture aussi, cette ouverture des frontières, finalement, des stéréotypes aussi, d'avoir cette ouverture à l'universel et à ceux qui ne sont pas dans le giron de notre chapelle, en fait. Alors peut-être qu'on peut lire Philippiens quand même pour passer à ces courts petits passages qu'on vous a sélectionnés et qui, voilà, qui ont cet ordre très curieux. Réjouissez-vous, comme si ça pouvait être sur commande. Alors qu'est-ce que quelqu'un veut nous...
Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs? Parce que sinon, oui. Vous êtes très sage. Hein. Oui, Nicole.
J'en avais une tout à l'heure, alors je reviens un peu en arrière. Vous aviez dit à un moment donné
Oui, d'en rechercher.
Oui. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une attitude quand même envers Dieu de le laisser faire lui? Alors après, vous y avez répondu en disant qu'il ne fallait pas non plus avoir cette attitude-là. Alors.
Oui, non, mais vous avez raison.
Ça s'opposait un petit peu.
Non, non.
Parce que je pense personnellement que justement, souvent, on refuse Dieu, même inconsciemment.
Oui, un peu. Donc là, il exhorte. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire, c'est qu'il n'y a pas...
Le laisser faire, c'est oui. Tout un programme. Enfin, c'est vraiment...
Oui. Donc là, quand il y a marqué, voilà, il parle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire laisser agir Dieu en nous pour nous construire. Quand on dit, voilà, la recherche de fidélité pour soi-même, à l'intérieur de soi-même, de cohérence, de réflexion, de sincérité intérieure, placer ça devant Dieu... C'est pour s'ouvrir à une action de Dieu en nous. Quand il y a marqué « règne de Dieu », c'est bien une invitation à laisser Dieu travailler en nous, dans notre famille, dans notre groupe, dans notre église. C'est le plus difficile. Oui, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin non plus, dans le renoncement, de dire « voilà, il faut laisser Dieu agir ». Non, on a notre rôle, notre mission. On est appelé pour cultiver, garder le jardin, pour agir, pour suivre le Christ et donc pour être créateur. Pour être principe et oser avoir et cette humilité devant Dieu et cette conscience de notre noblesse, d'être prince et princesse du royaume, co-héritier avec le Christ, appelé à agir dans ce monde comme sauveur, comme prophète, comme... voilà. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas faire des choses, je dis que le critère n'est pas le faire en fait. Tout est permis, et ça Paul le répète sans arrêt, il n'y a pas de dire voilà ça, il faut faire, ça ne faut pas faire. Non, ce qui nous est, et on n'est pas jugé là-dessus, ce qui est important, c'est de rechercher. C'est cette démarche, la vérité, elle n'est pas dans « faut faire ceci, faut pas faire cela ». La vérité, elle est dans le chemin. Jésus-Christ dit « je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est une vérité de cheminement, c'est une vérité de recherche, une vérité de sincérité. Sincérité intérieure à soi-même, ne pas se mentir à soi-même, c'est pas dire ben, « je crois que c'est ça que je dois faire ». Mais je vais choisir de faire autre chose, consciemment, volontairement, de tordre soi-même vis-à-vis de Dieu, cette sincérité, cette recherche. Ensuite, on est au bénéfice de la grâce de Dieu. On a essayé en conscience de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on pense juste de faire aujourd'hui. Le reste, on le fait dans la réflexion personnelle, dans la prière, dans une vraie recherche. Et puis le reste, ben, on décide ça, ben, le reste au bénéfice de la grâce de Dieu, et puis voilà... du pardon de Dieu, et puis voilà.
Oui.
Non, il y a un appel au faire, et il y a un appel à laisser faire Dieu en nous, tout à fait. Mais, on est dans ce... voilà, il n'y a rien d'impur en soi, sauf si Dieu nous dit en nous, dans notre prière, dans notre réflexion, que c'est impur et qu'on le fait quand même, là, il y a problème. Mais il y a une impureté de démarche à ce moment-là, une impureté d'hypocrisie, il y a chose qui est tordu et ça ne le fait pas. Et du coup, c'est une impureté de démarche, ce n'est pas une impureté d'acte en soi. Voilà. Et de choix, je crois que c'est quand même très libérant sur... sur notre courage d'être dans ce monde. On est dit, ben écoutez, faites-le en y mettant votre cœur, en laissant Dieu, en plaçant ça devant Dieu, puis ensuite, ben faites au mieux, finalement, selon ce que votre cœur vous indiquera, votre foi vous indiquera. C'est quand même encourageant, moi je trouve. Bon, alors ensuite, on fait des bêtises, on fait comme on peut, mais... Voilà. Et puis l'idée de ça se déploie dans l'espérance. Bon, alors aujourd'hui, bah oui, c'est imparfait, on a fait comme on a pu, c'est ouais, bon, mais on est dans l'espérance, ça se déploie dans le temps, et puis demain, ça progressera par l'Esprit Saint, et puis demain, bah, voilà, il y en a un autre qui va peut-être compléter ce qu'on n'a pas pu faire. Puis il y a Dieu, bien sûr, qui agit dans l'humanité, dans le monde aussi. On n'est pas seul à agir. Voilà.
En fait, au quotidien, c'est ce qu'on fait. On fait les deux. Hein. Et c'est difficile, enfin on négocie sans cesse, parce que uniquement le laisser faire, ce serait aussi le quiétisme qui a été condamné comme une hérésie au XVIIe siècle. Et puis de l'autre côté, on serait dans l'activisme ou dans le légalisme. Ou dans le, bon. En fait, je crois que dans nos vies, si on s'observe de manière un peu empirique, on fait les deux. Simplement là, comme on laisse nos vies... éclairé par la parole de Dieu, on essaie de non pas de juger, mais enfin d'analyser un peu comment les choses se passent.
D'évaluer.
D'évaluer, effectivement. Oui. Mais moi, je connais des gens qui ont uniquement le laisser-faire à la bouche et qui sont d'un activisme qui sont en contradiction, en fait. Peut-être d'ailleurs, ça leur sert de mantra, ils ont besoin d'un exutoire ou d'une compensation, alors du coup ils agitent de façon, comment on dit, oui c'est ça, il y a un mot pour ça, et donc voilà, je pense qu'on n'a jamais totalement accès à soi-même. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger avec d'autres pour savoir comment, dans une situation par exemple, des situations limites, hein, une situation de deuil. C'est sûr que le travail du deuil, le travail, on dit bien que c'est un travail, hein, c'est comme le travail d'une naissance. Donc il y a bien, on collabore, on laisse pas les choses se faire. Et en même temps, il y a quelque chose qu'on reçoit, tout ne peut pas être fondé uniquement sur notre propre force. Il y avait une parole de Saint Ignace, je crois, qui disait, il faut tout faire comme si ça dépendait de Dieu, mais en faisant comme si ça dépendait de nous. C'est comment cette...
Oui, il y a quelque chose comme ça.
Oui. Croire que les choses dépendent seulement de Dieu, mais agir comme si elles dépendaient de nous. Hein, voilà. Tout en se disant qu'en fait...
C'est ambigu, bien sûr.
Parce que, en fait, dans notre désir lui-même, il y a déjà Dieu. En fait, c'est ça. Mais il ne faut pas trop vite... identifier Dieu à nous-mêmes, parce que, comme le disait Marc, le sujet existe. La messe en site Bach, c'est pas Dieu qui l'a écrite, effectivement, c'est bien Bach. Et ce qui est intéressant, je fais une deuxième parenthèse, mais le fondateur de ma congrégation, Pierre de Bérulle, qui a fait construire l'oratoire du Louvre, Pierre de Bérulle, justement, a eu cette sagesse de tenir les deux. Il était face à l'humanisme de la Renaissance. L'humanisme de la Renaissance exalte l'homme, exalte le besoin d'épanouissement de l'homme et la capacité à choisir sa vie, à prendre des décisions, etc. Et donc, on a quelquefois qualifié l'attitude spirituelle de Bérulle comme anti-humaniste, dans ce sens-là. Il faut bien entendre anti-humaniste au sens de l'humanisme du XVIe siècle qui pouvait... effectivement, finir en orgueil. Et du coup, Bérulle a beaucoup donné, exactement ce que tu disais des protestants, il a beaucoup donné dans la kénose, c'est-à-dire la kénose du Christ, que l'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, l'abaissement du Christ, qui se vide de sa volonté propre pour laisser Dieu agir en lui. Bérulle a eu tendance, comme plus tard les jansénistes, à en faire un peu l'alpha et l'oméga de la vie spirituelle du chrétien. Mais ses disciples ont été plus radicaux que lui. Lui-même, probablement parce qu'il était diplomate, avait la sagesse de ne pas parler de l'anéantissement du moi. le moi est haïssable, etc. Vous savez, tout ce que le XVIIe siècle a pu produire, hein, de pessimisme anthropologique, de pessimisme sur l'homme. Bérulle n'y est pas pour rien. Mais lui-même, s'il n'était pas mort à 54 ans, aurait d'ailleurs été un facteur d'apaisement dans la querelle de Port-Royal, parce que lui-même ne pensait pas qu'il fallait attendre l'extinction totale du moi, parce qu'on n'est pas bouddhiste, parce que le désir de l'homme, le structure, et que c'est notre identité, c'est en ça d'ailleurs que nous sommes peut-être à l'image de Dieu. Oui, bien sûr, le désir de l'homme rejoint le désir de Dieu, etc. Et alors, ce qui a permis aussi aux oratoriens de ne pas trop tomber dans cette hérésie de laisser Dieu uniquement agir en nous, c'était le fait d'avoir une œuvre d'éducation. Et quand on a charge d'âme et qu'on voit le travail de l'esprit dans des individus, voilà. Donc il y avait un pessimisme peut-être spirituel, mais un optimisme de terrain. Et c'est cette conjonction qui, moi, m'a semblé toujours intéressante. Non, un vrai chrétien doit être les deux.
Non, puis comme tu dis, il faut le voir en correctif, comme une réponse, un correctif par rapport à l'époque qui était peut-être trop optimiste sur la valeur de l'humain et sa réflexion. Et donc c'est comme quand on a une tige de fer qui est un peu tordue, ben, il faut aller un peu plus loin de la position droite pour la remettre en place.
Comme Augustin, oui.
Il y avait une autre question, je crois, non ?
Je voulais dire que les textes que vous aviez choisis répondent tout à fait à la phrase qui nous fera voir le bonheur.
Ah c'est, oui.
En fin de compte, on réalise qu'on ne peut pas voir le bonheur tout seul, en solitaire.
Ça c'est beau, tout à fait.
Ça, c'est complètement en faux avec ce qui se dit actuellement.
Oui. Oui, la question.
Le bonheur solitaire, c'est impossible.
Oui.
La question contemporaine, ce serait quand aurai-je le bonheur et pas qui me fera
bonheur. Comment acquérir le bonheur, comment acheter le bonheur.
Et j'ai droit au bonheur.
J'ai droit au bonheur.
Oui, on y a droit en plus, c'est vrai.
Bonheur pour tous.
En plus, on y a droit. Il nous est promis même. Est-ce qu'on se livre un petit passage de Philippiens pour terminer? On a encore 7 minutes, on a le temps de le lire et puis dire peut-être une petite idée. Qu'est-ce qui nous lit ce passage de Philippiens? Si quelqu'un est volontaire, merci beaucoup.
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
Moi, j'ai bien aimé la petite instruction sur la prière au milieu. Je trouve que c'est quand même assez bon, ça. D'abord, le Seigneur est proche. Alors, c'est un peu ambigu. Il est proche à la porte, en distance. C'est-à-dire qu'on peut lui chuchoter quelque chose et il entend, il est là. Et puis, proche dans le temps. C'est-à-dire que, voilà, il vient dans notre existence. Et voilà, donc il y a cette espérance à la fois et ce déjà-là du Christ présent auprès de nous et c'est en même temps cette attente et cette espérance. Bon, ensuite, ne soyez inquiets de rien. C'est un peu ce que tu disais, dans un monde qui est troublé, beaucoup plus troublé à l'époque qu'il ne l'est encore maintenant pour nous, parce qu'en fait, on est quand même dans une situation extrêmement favorable, malgré la crise. Et soyez inquiets de rien, mais il y a la prière, il y a la supplication. Il dit, il ne faut quand même pas oublier l'action de grâce. Ça, c'est de la sagesse, de la simple sagesse. Ça, c'est quoi? Je crois un très bon truc. Ne pas penser qu'à ce qui ne va pas, penser aussi un peu à ce qui est bien et s'en réjouir. Ben ça, je veux dire, ça aide aussi. C'est quand même sain, S-A-I-N. Faites connaître vos demandes à Dieu. Donc, on a le droit quand même de présenter sa liste de courses à Dieu, parce qu'on est tous un peu des enfants à présenter notre liste de cadeaux au Père Noël, en fait. Mais l'exaucement qui est proposé, bon, vous avez le droit de présenter votre liste de courses à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc l'exaucement, c'est ça. Et ça, je crois que c'est quand même assez beau. L'exaucement de la prière, c'est pas que Dieu va accomplir notre liste de courses, parce que c'est extrêmement puéril de dire « Seigneur, je pense dans la prière aux pauvres, etc. Ben, » je veux dire, c'est un peu facile, parce que d'abord, Dieu n'a pas de main pour faire tomber d'autres mains que les nôtres, pour faire tomber des pains devant sur la table du pauvre. Deuxièmement, on dit ça pourquoi ? Comme s'il ne le savait pas qu'il y avait des pauvres à la porte. On lui apprend quoi ? Et on lui demande d'agir quoi ? De le convaincre de faire quelque chose pour les pauvres, comme s'il n'avait pas déjà l'intention et le désir de le faire. Donc, je veux dire, c'est complètement puéril. Mais en même temps, il dit « on le fait ». On le fait pourquoi ? Parce que, justement, on va s'ouvrir à l'action de Dieu à l'intérieur de nous. Et que ça, ça dépasse tout ce qu'on peut en dire. Donc on est au-delà peut-être de l'humanisme, justement, de qui fait de la philosophie. Et nous en faisons, et heureusement. Mais il y a là, dans le fait de présenter nos projets, nos inquiétudes, notre louange, d'une manière un peu puérile à Dieu, on le laisse travailler à l'intérieur de nous, et il y a là quelque chose qui dépasse largement nos petits exaucements. Oui. On dit des fois en rigolant, méfie-toi de ce que tu demandes à Dieu, il pourrait bien l'exaucer. Effectivement, on demande des trucs, on demande des bêtises à Dieu, et il sait beaucoup mieux que nous ce qu'il y a à faire, et donc heureusement qu'il ne fait pas trop machin. Et puis en plus, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, évidemment. Oui. Sinon, il le ferait. Quand il faut guérir un enfant qui meurt de leucémie, s'il pouvait le faire, il le ferait. Donc, par contre, ce qu'il peut faire, c'est transformer notre cœur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très bon pour la prière, si vous voulez. En même temps, pour accompagner notre façon de prier. Et en même temps, pour nous dire quel est l'exaucement à attendre. Un exaucement qui est infiniment plus profond et vrai que ce qu'on pourrait en attendre dans notre prière un peu naïve, voilà, mais légitime.
Oui, et puis il y a cette liste, j'aime bien quand il fait des listes comme ça, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, faites-le, voilà. Parce que quelquefois, notre question, c'est un peu la question de Lénine, là. Que faire ? Voilà, que faire ? Effectivement, quelle est la boussole pour être chrétien ? Eh bien, régulièrement, on a chez Paul... De même qu'il y a un autre passage dans une autre épître où il dit ce qui n'est pas bien, vous savez déjà ce que c'est le dénigrement, c'est l'égoïsme, c'est la débauche, c'est la malveillance. Tout ça, on le sait, mais de temps en temps, on a besoin qu'on nous le rappelle. Et ici, la boussole, c'est ça. Et je crois que là, le sens de la foi, le sensus fidei, comme on dit, le bon sens de la foi, qui n'est pas un bon sens populiste ou démagogique, qui est le bon sens qui est infusé en nous par l'esprit. Ce bon sens nous fait discerner, on sait au fond d'instinct ce qui est bien et pas bien. Hein. Il faudrait qu'on s'observe toute une journée, on doit prendre des options toutes les minutes d'une certaine manière. Hein. Repousser une tâche à faire, procrastiner, ne pas la faire, reprendre une mauvaise habitude. Quelquefois, on se cache derrière notre petit doigt en disant « oui, mais au fond, c'est pas si clair ». Et puis on est nostalgique d'une époque où les choses étaient claires, mais au fond, cette époque-là, c'était aussi très... très hypocrite, parce que quand c'est clair, c'est tout de suite binaire, c'est tout de suite tatillon, vétilleux, juridique, bête, étroit, étriqué. Donc voilà, il faut savoir un peu... Être adulte dans la foi, c'est aussi consentir à ne pas jouer sur tous les tableaux, hein, ne pas vouloir à la fois des règles. Vous savez, c'est comme l'Europe, il faut des règles partout, puis après on dit que c'est pas bien. Alors bon, donc la vie spirituelle, c'est pareil. Être adulte dans la foi, c'est d'accepter ça. Alors, de temps en temps, il faut que saint Paul nous dise, vous savez d'instinct ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être honoré, tout ça. Et ça, on voit un portrait robot, là. On voit le portrait robot d'un chrétien, de quelqu'un qui, sans faire de bruit, fait beaucoup de bien.
Mais là, il n'y a pas marqué vraiment, faites-le, il y a marqué en fait...
Non, portez-le à votre actif.
Oui, mais même pas, il y a marqué logizomai, c'est-à-dire calculez-le, quoi, presque. C'est... Il oui. faut le compter, il faut le penser. Parce que c'est quoi logizomai ? C'est le calculer. Hein.
Oui, mais c'est une forme moyenne, c'est compter, donc ça veut dire pour soi. Quand les formes moyennes sont...
Oui, mais moi j'y verrais bien. Donc effectivement, on retrouve un peu cette action de grâce, finalement. peut-être dans la prière du soir, essayer de calculer ça, voilà, c'est discerner les traces de ce qui était vrai, de ce qui était noble, de ce qui était juste, de ce qui était pur, pour en rendre grâce et pour la gratitude aussi, de se dire, ben voilà, là j'ai pu faire quelque chose de noble, c'est pas pour s'encenser, c'est pour s'en réjouir et se dire, ben voilà, là sur ce coup c'était pas mal. Alors, vous voyez, c'est très positif, je trouve. Il y a ce regard affectueux, ce regard bienveillant sur notre journée, sur quelqu'un qui a pu aussi être noble, juste, pur, aimable, honorable dans sa façon d'être, dans sa personnalité, dans son action. Et ben, le cueillir, le recueillir, pas le laisser s'échapper comme ça, sans l'avoir calculé, finalement, sans l'avoir médité, dans la louange, dans la gratitude. Et peut-être aussi ben, dans notre regard vers demain, finalement, essayer de calculer ce genre de truc. Voilà. Et ça aussi, j'aime bien ton portrait robot, ta boussole, c'est quelque chose, mais même ne serait-ce qu'en trempant son œil, en trempant son espérance, en trempant sa gratitude dans ce genre de choses. Voilà. Parce que oui, la vie, c'est toujours à moitié plein, à moitié vide. On peut toujours aller... méditer sur la petite vacherie qu'on nous a fait, sur le truc qu'on a raté dans la journée, et puis se dire voilà, j'étais nul, des remords, des culpabilités, c'est pas... Il nous propose ce regard positif dans l'espérance, et ça je trouve que c'est, voilà, c'est peut-être ça, se réjouir aussi, en vérité.
Et du coup, la prochaine fois, j'ai dit de la joie, à quoi sert-elle?
Ça, c'est avec l'Ecclésiaste, très très fort, Ecclésiaste, qui manquerait s'il n'était pas. Donc, bon retour dans votre foyer, et puis merci de nous avoir rejoints.
On sera en carême la prochaine fois.